Et il est l'heure de retrouver Bruno Canard et l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler d'adaptation littéraire et de biographie dessinée. Damien Cuvillier vient de faire paraître aux éditions Futuropolis « Voleur de feu, une vie » d'Arthur Rimbaud. Donc on a une matière narrative qui préexiste, puisqu'il va puiser, bien sûr, dans la biographie d'Arthur Rimbaud. Alors, c'est pas seulement une bio de plus, parce que le poète français mondialement connu a eu énormément d'adaptations, d'éditions. Donc on a beaucoup écrit. Et pourtant, Damien Cuvillier va faire une adaptation libre. Il va démarrer dans ce premier livre, puisque sa biographie va en compter 5, eh bien, on va découvrir l'enfance, l'adolescence d'Arthur Rimbaud, Frédéric, son frère aîné, Vitaly, sa mère, qui est gérante d'une ferme. Et on va voir et on va les découvrir dans la ville, à la ferme, en classe, en pensionnat. Et c'est servi par un dessin d'une très grande exigence. Damien Cuvillier, pour Voleur de feu, devient auteur complet et c'est un projet de longue date qu'il a mûri pendant de nombreux mois. Nous serons avec Damien Cuvillier à partir de 14h10-14h15 pour un entretien qui a été enregistré dans les conditions du direct mardi. Et donc vous pourrez ainsi découvrir cette vie d'Arthur Rimbaud selon Damien Cuvillier. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous l'avez entendu, Fabien est en régie. La programmation musicale a été choisie par Damien Cuvillier et je voudrais donc encadrer son livre et son entretien par deux adaptations littéraires. Je vais commencer par Indiana de Bouillac et Cattel, et c'est adapté du roman de Georges Sand. Alors, les deux autrices, Claire Bouillac et Cattel Muller, ont déjà réalisé plusieurs livres ensemble, dont le dernier, La princesse de Clèves, qui s'attachait à ces écrivaines qui ont écrit, qui ont pris une place importante dans la littérature. Alors, Indiana, c'est le premier roman de Georges Sand, et il y a un prologue où on découvre comment Georges Sand a choisi son nom. Signé Horreur du Devant, son nom de jeune fille c'était Horreur du Pain, mais qui achèterait un livre de femme? Ce serait voué à l'échec. Si tu reprends ton nom, Sando, est-ce que je peux garder Sand? Bah oui, d'accord, mais pas Jules. Non. Georges. Chez moi, dans le Berry, ça signifie celui qui travaille la terre, ça me plaît. Tu as déjà obtenu l'autorisation de te travestir en homme, il ne te manquait plus que le prénom. J'ai hâte d'expliquer tout cela à mon éditeur. Dorénavant, je parlerai au moi de masculin, je suis Georges Sand. Ça, c'est le prologue et c'est aussi une des grandes forces de ce travail d'adaptation littéraire fait par Claire Bouillac et Cattel Muller, c'est d'encadrer le récit avec un prologue et un épilogue qui mettent un contexte au roman et qui permettent de comprendre plus en profondeur les intentions de l'écrivaine. Alors, le récit d'Indiana. Nous sommes en 1830, quelque part dans la Brie. Elle est mal mariée à un vieux colonel irascible. La jeune Indiana, âgée de 19 ans, se morfond dans le manoir conjugal. Sa vie va basculer lorsque un nouveau voisin, Raymond de Ramière, pris à tort pour un voleur par son mari, est recueilli chez elle. Il est légèrement blessé, mais choqué. Puis plus tard, Indiana va retrouver le charmant jeune homme dans un bal. Lui va commencer un jeu de séduction, lui faire une cour assidue. Donc c'est un livre sur le mariage, sur la condition des femmes, sur la subordination qui était très en vogue à cette époque. Alors, quelques mots sur la scénariste Claire Bouillac qui a réalisé aux éditions Cornelius avec Jack Reynal une série intitulée Francis et qui est une sorte d'exercice humoristique à contrainte mais qui est de grande ampleur. Ça commence toujours par Francis se promène dans la campagne. Et puis, il y a, dès la deuxième case, eh bien une pirouette, un changement. Soudain, il connaît l'éclatante réussite matérielle et goûte à l'ivresse du pouvoir. Et on est déjà à la deuxième case. Cette série est absolument réjouissante. Et une scénariste capable d'écrire l'ensemble des gags de Francis mérite toutes nos considérations. Alors, il y a donc dans Indiana cette importance du contexte historique, c'est vraiment le portrait de la société française à l'orée de la Révolution de 1830, et puis il y a un partage des dessins, puisque l'écriture du scénario est à deux, mais c'est Cattell Müller qui va faire le prologue et l'épilogue, qui va les dessiner, et c'est Claire Bouillac qui va dessiner l'adaptation donc d'Indiana. Il y a dans le choix graphique, il est immédiatement perceptible et visible et puissant dès la couverture, une élégance du trait, une façon de donner au trait de pinceau une courbe qui va être au plus près des visages, au plus près des corps. Et on a ainsi une galerie de personnages. Alors il y a Indiana, bien sûr, il y a son mari, Delmar, colonel, il y a Noon, qui est l'aide d'Indiana et son ami, Ralph, un ami d'enfance, et puis ce Raymond de Ramière, le prétendant. Indiana relève beaucoup plus du théâtre. C'est tout à fait une sorte de dialogue qu'on pourrait trouver sur une scène de théâtre et la bande dessinée permet de faire évoluer dans différents décors et de donner un arrière-plan à l'ensemble de ces dialogues. Mais c'est vraiment ces échanges qui portent ce récit et la mise en image va vraiment donner pleinement et porter pleinement ces échanges et ces discussions, ces confrontations entre les différents personnages. Et il y a une force du dialogue et une présence des personnages qui est constante tout au long de ce récit. C'est la puissance du trait de pinceau de Claire Bouillac qui donne aussi cette intensité à la lecture. Elle reste toujours au plus près des corps. Lorsque nous sommes vraiment avec les personnages, lorsque Indiana est contrariée, lorsqu'elle est humiliée, effondrée, nous sommes avec elle. Et donc Indiana devient bien plus qu'une adaptation, c'est vraiment une autre forme donnée à l'œuvre de George Sand. Donc c'est l'occasion en tout cas de découvrir un petit bijou qui montre une facette plus sociale et politique de l'œuvre de George Sand, dont on connaît le très très grand succès de la pauvre Fadette. C'est publié par les éditions d'Argo, les 176 pages de cette biographie dessinée, de cette adaptation littéraire, de ce roman graphique, est au prix de 25,50 €. Avec Voleur de feu, une vie d'Arthur Rimbaud et ce livre 1, Damien Cuvillier démarre une adaptation libre en 5 volumes. Son dernier livre, Le choix du chômage, écrit par le journaliste Benoît Colomba, s'appuyait sur une mise en image au lavis pour cet essai politique. Le dessinateur s'attache à la précision d'une représentation. Chaque acteur politique ou industriel est campé, ressemblant, nous entraînant ainsi au cœur de ce dossier. Avec Voleur de feu, Damien Cuvillier reprend cette exigence graphique pour mettre en scène Arthur Rimbaud, enfant, son frère Frédéric, leur mère Vitalie. L'auteur inscrit sur le visage d'Arthur Rimbaud, enfant, la puissance du regard du poète présent en notre mémoire. Le dessin saisit chaque nuance du regard, des émotions, est au plus près de chaque geste, apporte à chaque personnage sa personnalité, son histoire. Chaque double page mise en scène par Damien Cuvillier restitue une époque avec ses villes du milieu du XIXe siècle, les campagnes et ses vies de labeur. La précision graphique fait de chaque lieu, grande place, église, école, pensionnat, classe, corps de ferme, forêt, ruelle, intérieur modeste ou salle à vivre d'une ferme un soir de veillée. À chaque fois, nous sommes là, auprès des personnages. Les teintes animées de l'aquarelle apportent beaucoup à cette vraisemblance omniprésente. Utilisant pleinement la transparence de ces couleurs, leur facilité à se fondre, les cieux sous le pinceau de Damien Cuvillier sont particulièrement saisissants. L'aquarelle, c'est ici aussi la lumière sur les visages. Et cette façon d'isoler Arthur dans une case à différents moments du récit tout au long de son chemin de poète. Damien Cuvillier, avec Voleur de feu, poursuit et donne de l'ampleur à son grand œuvre. Bonjour Damien Cuvillier.
Bonjour Bruno.
Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ce projet fut possible ? Quel a été le déclencheur ? Parce que Arthur Rimbaud, c'est une passion ancienne.
Oui, oui, ça fait très longtemps que je chemine avec Arthur Rimbaud, ça, que j'ai découvert à l'adolescence, comme beaucoup souvent. Et ça fait très très longtemps que j'avais envie de raconter quelque chose en bande dessinée autour de la vie de ce personnage qui me fascinait beaucoup. Et ce qui a été possible, c'est différentes choses, mais c'est d'abord la volonté aussi d'un éditeur qui m'a fait confiance. En l'occurrence, c'est les éditions Futuropolis et plus précisément Claude Gendreau, qui est l'éditeur de cet album, et qui, connaissant ma passion pour la poésie et pour Arthur Rimbaud, m'a à un moment donné donner la possibilité et la confiance de mener ce projet.
Alors, mais à un moment, justement, quand il y a cette vie d'Arthur Rimbaud à embraser avec tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été filmé, dessiné sur Rimbaud, comment avez-vous mis en place votre projet ?
Alors oui, effectivement, ça paraissait un peu, pouvait paraître un peu périlleux dans la mesure où c'est assez énorme, on va dire, comme personnage. Rimbaud, c'est à la fois un personnage mythique et mystifié. Et j'avoue que, en fait, longtemps, j'ai reculé et repoussé l'envie de me confronter à mettre en récit, en bande dessinée, la vie de ce personnage, pour cette raison aussi, parce que je me suis dit, bon, il y a énormément de choses autour du personnage. Enfin, si l'œuvre elle-même de Rimbaud est assez... finalement, elle tient en une cinquantaine de poèmes et en un livre qui est Une saison en enfer. Donc l'œuvre est assez réduite, mais en tout cas le champ littéraire, enfin en tout cas historique, biographique, et puis ensuite les fictions est énorme. Il y a pas une année qui passe finalement depuis la mort de Rimbaud sans qu'on écrive dessus. Donc les exégètes sont nombreux et il a fallu le temps justement de que je m'accorde finalement la permission de travailler sur cet album, et puis aussi de faire la part des choses encore une fois entre ce qui semblait être le mythe et un semblant de vérité, même si c'est un bien grand mot, sur la vie du personnage. C'est-à-dire que, en réalité, je le dis dès le départ, c'est une biographie fictionnelle. Ce n'est pas une biographie au sens littéral du terme, dans la mesure où je ne suis pas biographe, je ne suis pas historien. Je me base sur le travail des historiens et des biographes, mais j'assume une grande part de subjectivité dans la mesure où c'est un personnage sur lequel finalement on sait quand même très peu de choses, il y a énormément de vide et que j'essaye de venir combler. Et en fait, c'est cette part de fiction où à un moment donné, je me suis dit, je me suis autorisé le fait d'écrire autour de ce personnage, de réaliser cette bande dessinée à partir du moment où je l'ai pris finalement comme un personnage de fiction. Et de différentes manières, c'est-à-dire à la fois pour raconter... il me permet pas mal de choses, ce Arthur Rimbaud, à la fois effectivement de cheminer avec son œuvre poétique et puis d'essayer de la faire découvrir ou redécouvrir à ceux qui ne la connaissent pas ou peu. Et puis d'un côté, il m'intéressait parce que c'est un des personnages comme beaucoup d'artistes que l'on présente comme effectivement un génie, quelqu'un qui serait né comme ça, touché par le doigt de la muse et qui serait né poète. Et bon, moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas et qui ne m'intéresse pas. Enfin, les génies, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et je trouvais intéressant, au contraire, d'essayer de raconter comment un personnage qui... un être humain comme un autre, mais avec une sensibilité particulière, dans un contexte particulier, un contexte familial, historique, politique, va découvrir la poésie, et pour qui la poésie va devenir une véritable compagne de vie, et surtout quelque chose de très très important. C'est-à-dire quelque chose qui va changer la vie, doit changer la vie.
Damien Cuvillier, vous évoquez donc la collaboration avec Claude Gendreau, l'éditeur de chez Futuropolis qui vous a accompagné sur ce livre. Est-ce que vous aviez une vue d'ensemble des 5 volumes? Est-ce que vous avez avancé l'écriture de l'ensemble de votre récit? Ou il reste au contraire une part sur les développements possibles de par l'espace que vous pourriez réserver à des moments plus libres encore?
Non, tout a été déjà écrit. Ce qui composera les 5 tomes est intégralement écrit, découpé, en partie storyboardé, enfin sous forme de brouillon. Et pour moi, c'était primordial dans la mesure où, encore une fois, c'est une fiction, donc il y a une trame narrative que je développe et des ponts qui se font entre chaque volet, des choses qui se répondent. Et je pouvais pas faire l'impasse de tout écrire, justement. C'est-à-dire que des scènes que l'on finalement découvrira en toute fin du 5e volume répondent à des scènes du début du premier. Donc voilà, il fallait avoir toute cette narration écrite pour pouvoir avancer. Et là encore, c'était, sachant que c'est le premier album que je réalise entre guillemets seul, au scénario et au dessin, même si je ne suis pas à mesure où je suis vraiment le travail et l'accompagnement que réalise Claude Gendreau est immense et très important dans cet album. Mais pour moi, je ne pouvais pas me lancer, en tout cas dans une grande traversée comme celle-ci, sans savoir exactement où j'allais atterrir à la fin. Alors après, évidemment, il y a parfois des petites embardées en cours de route, c'est-à-dire que ce qui compose les 3 premiers volumes a été déjà storyboardé, mais là, en cours de route, quand je passe sur les pages finales, ça n'empêche que effectivement, il y a des variations, parfois, il y a des dialogues, notamment, qui sont retravaillés, ou des pages qui sont enlevées, ou d'autres rajoutées. Alors, c'est des choses à la marge, mais en tout cas, j'essaye de garder le cap de mon récit. Et effectivement, ça serait... sachant que je continue en plus à lire des choses qui sont publiées autour de l'œuvre de Rimbaud, et il y a parfois des éléments sur lesquels je me dis « Ah, ça pourrait être intéressant de les intégrer », mais là encore, j'essaye de pas laisser mon penchant qui pourrait être parfois, et c'est là encore une fois où le rôle d'un éditeur est important, c'est-à-dire que de tenir le cap de mon récit, c'est-à-dire qu'il y a quand même un propos que je développe, et sur lequel on pourra en revenir après, mais de pas tomber dans l'anecdote, c'est-à-dire de pas faire des clins d'œil, par exemple, au Rimbaldolâtre, au Rimbaldophile, en disant, vous avez vu, moi aussi, j'ai lu les mêmes livres, et vous avez telle référence à tel moment, je vous la mets, etc., sachant que ça n'apporte rien au récit. Et le fil rouge, donc, que je développe, c'est... donc la trajectoire d'un personnage effectivement singulier qui va découvrir la poésie et qui à un moment donné va arrêter d'écrire de la poésie, mais va vivre autrement la poésie, c'est-à-dire la vivre concrètement. C'est mon parti pris, c'est ce que je développe. Et l'autre fil rouge de cette série, c'est la relation... aussi singulière qu'il a avec sa mère, qui pour moi est un personnage important dans sa vie.
Damien Cuvillier, il y a aussi un autre parti pris qui me paraît essentiel, c'est un récit qui est vraiment basé sur le dialogue. on n'a pas de récitatif qui nous redonne le contexte, qui on a juste quelques mentions des années, mais c'est surtout des échanges verbaux qui sont présentés. Là aussi, pourquoi ce choix, Damien Cubillier?
Bah, encore une fois, c'est pas une biographie, donc j'avais envie d'emmener aussi le lecteur dans une balade en compagnie d'Arthur Rimbaud à travers Charleville, les Ardennes, la campagne ardennaise, et pas spécialement de dresser un portrait précis du Second Empire et de ce 19e siècle, même si sont présents différents éléments, c'est-à-dire que évidemment, Charleville se trouve près de la ligne de front au moment où éclate la guerre de 70. L'album se clôt par justement le début de la guerre. Et puis d'autres événements qui ont lieu, qui viennent un peu donner une teinte à l'environnement politique de ce Second Empire. C'est un moment où c'est un retour du religieux, d'un religieux très, très conservateur. Et c'est également aussi un moment où les mouvements sociaux sont grandissants. On est en pleine révolution industrielle. On commence à avoir des usines, des manufactures de 500, de 1000 ou 2000 personnes qui travaillent dedans. Charleville-Mézières qui n'a pas encore fusionné à cette époque. Il y a Charleville, la bourgeoise, ville de garnison, et juste à côté Mézières qui est la ville industrielle populaire. Et je fais l'écho justement dans l'album de grève à répétition qui a lieu dans les manufactures de Mézières et qui sont réprimées dans le sang. Voilà, ça c'est aussi le contexte de l'époque dans lequel grandit ce personnage qui se trouve lui aussi dans une classe sociale assez particulière. C'est certainement pas un prolo, hein, Arthur Rimbaud, mais c'est pas non plus, il appartient à la petite bourgeoisie provinciale. C'est pas des notables, c'est pas des grands bourgeois, et par leur vie particulière, ils sont quelque peu, la famille est un peu déclassée, c'est-à-dire que le père, le capitaine Rimbaud, après avoir fait ses 5 enfants, lui déserte le foyer familial, ce qui fait que la famille est un peu à part des cercles de notabilité de Charleville. Et puis ils ont cette maison, la mère Vitalie, elle possède une ferme à la campagne, mais c'est une gérante de ferme, donc elle n'est pas non plus, ils sont pas intégrés à la vie paysanne. Donc c'est des gens c'est une famille qui n'est ni intégrée ni dans un cercle ni dans un autre et qui est un peu seule. Et ce qui rend ce personnage d'Arthur Rimbaud entre un peu entre deux mondes, et ça explique là aussi pas mal, je trouve, les suites de son parcours. En fait, dans ce premier volume, qui est notamment, qui est entièrement consacré à sa petite enfance et l'adolescence, je prends le temps d'installer un peu justement tout ce contexte-là, qui moi me semble assez important pour la suite justement, et on va voir comment jusqu'à la fin de sa vie, il va un peu naviguer d'un camp à un autre, c'est-à-dire et à la fois du côté des travailleurs, mais en même temps, on se refait pas, quoi. C'est-à-dire son appartenance, elle est celle d'un bourgeois de province.
Damien Cuvillier, comment travaillez-vous ces dialogues? Est-ce que vous les exprimez à haute voix pour qu'ils collent au mieux? Est-ce que vous les reprenez, les ajustez une fois le dessin en place? Comment se passe cette écriture des dialogues?
Alors, il y a déjà une première phase où généralement ça se fait au moment du storyboard, donc et le brouillon de l'album, hein, qui est fait sous forme de dessin assez rapide. Et là, je place les dialogues. Et effectivement, j'ai tendance, en tout cas, à placer des intentions de dialogue. J'essaye d'être le plus plus précis possible. Mais alors souvent, je joue un peu ça dans ma tête, mais effectivement, ça arrive très régulièrement que je fasse jouer certains moments, par exemple, à ma compagne. Et je lui raconte, bah voilà, je lui décris la séquence en disant, bah voilà, le personnage est en train de dire ça à un autre. Si tu étais à sa place, comment tu répondrais? Voilà. Et effectivement, donc il y a des petites parties de ping-pong qui se font comme ça, et qui se font aussi parfois avec mon éditeur, avec Claude Gendreau, et qui justement lui a un œil assez redoutable sur les dialogues, et d'autant plus que ce personnage de Rimbaud, moi tel que je le comprends, et tel de ce qu'on en sait des témoignages de ceux qui l'ont connu, c'est que c'était un personnage assez laconique visiblement, qui mettait assez mal à l'aise par ses silences. Et ça, dès l'enfance, visiblement, c'est un personnage qui parlait peu. Et compliqué de faire dialoguer un personnage qui parle peu, et sans non plus ennuyer le lecteur. Mais bon, j'essaie de faire passer ça, c'est-à-dire que c'est un monde, en tout cas, c'est un personnage qui vient dans une sorte de monde intérieur, encore une fois, de ce que moi j'imagine de ce personnage. Et traduire ça, effectivement, ça nécessite aussi des grands moments de silence. Mais des moments de silence, mais qui justement aussi racontent quelque chose, racontent un personnage qui est en mouvement, qui marche beaucoup. Et ces marches vont être aussi le déclencheur de poésie, en fait.
Damien Cuvillier, je vous propose une pause musicale. On se retrouve donc après le morceau de Bernard Lavillier que vous avez choisi. À tout de suite.
Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens donc grand shooter du désespoir, viens donc visiter mes lamis noirs. Viens donc chevaucher les grands rouleaux et te coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la French, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Il y a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Mon belle femelle de métal, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence c'est vraiment trop, ici y a pas de place pour les manchots. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges, le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays pas très connu, y a pas de touristes dans les rues. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tout ce décor. tout leur pardonner et me tenir tranquille. Il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens c'est la descente au fond de la mine.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Damien Cuvillier à l'occasion de la sortie de Voleur de feu, une vie d'Arthur Rimbaud, livre 1. Alors nous avons évoqué avant ce morceau toute la partie narrative, narration, donc le récit, les dialogues. Comment s'est passée la mise en image, Damien Cuvillier ? À quel moment avez-vous commencé à visualiser cette vie d'Arthur Rimbaud ?
Je pense que, dans la mesure où c'est le premier album que je réalise seul, il y a eu toute une première phase du travail qui a consisté à un mélange de dessin, d'écriture, c'est-à-dire où je me suis vraiment, le moment où je me suis lancé de nouveau dans l'écriture sérieuse de ce qui est la base, devait être un seul grand volume, et puis finalement 3, puis à la fin 5. Mais en tout cas, c'était en tout cas à la fois une description de séquences, parfois des séquences déjà dessinées sous forme encore de brouillon, et puis à la fois des recherches de personnages en m'inspirant de photos du 19e ou même de peintures. Tout ça c'est un petit peu mélangé justement. Encore une fois, c'est un exercice qui est nouveau pour moi. J'ai pas l'expérience de collègues scénaristes. Voilà, ça a pris déjà cette forme un peu empirique. Et à un moment donné, j'ai véritablement délaissé le dessin pour me concentrer uniquement sur l'écriture. Donc ce qui compose maintenant les 5 volumes est entièrement écrit et en partie dialogué. Et ça, c'est vraiment un travail. C'est la première fois que je faisais ça et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. En tout cas, pendant de longs mois où je n'ai fait qu'écrire. J'ai dessiné par ailleurs, mais en tout cas, ça n'avait finalement pas de rapport avec le projet en lui-même. Et puis à nouveau, une fois que cette phase d'écriture était terminée, je me suis relancé sur des recherches de personnages. Et ce qui a été finalement assez compliqué, c'est de trouver le dessin à adopter. J'essaye, en tout cas, c'est pour chaque album, de changer de technique, d'essayer de changer aussi, de donner des inflexions à mon dessin. De pas répéter en tout cas d'un album à un autre le même style de dessin. Donc il y a eu tout ce moment aussi de chercher un petit peu quel serait le style adéquat. Et puis évidemment donner un visage à ce Rimbaud et à sa famille. Il y a très peu de clichés d'Arthur Rimbaud. Il y en a un qui est mythique, qui est celui réalisé par Étienne Carja, que l'on connaît tous, qui est réalisé quand il a un portrait qui est fait de lui quand il a 17 ans, où il est très beau, ce regard adolescent, un peu poupin, qui est vraiment le cheveu ébouriffé, où il est vraiment très beau. Et puis, il y en a deux, trois qui datent de la fin de sa vie, quand il est en Éthiopie, ou qui sont des clichés, où on le devine à peine, qui sont les clichés sont flous, et lui-même est dans l'ombre. Mais de ce qu'on en sait, des descriptions aussi qu'on a de sa fin de vie, c'est que il finit la peau tannée, le visage émacié, les cheveux blancs, les yeux cernés. Et finalement, graphiquement, il y a là un personnage aussi qui moi m'intéresse beaucoup à traiter, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vraie évolution graphique de ce visage où on commence effectivement avec cet adolescent, ce très bel adolescent, et qui va finir avec un visage un peu buriné, quoi. Donc il y a cette matière graphique qui moi me plaisait beaucoup à mettre en image. Donc,
Y a quand même, Damien Cuvillier, quelque chose d'étonnant. On a l'impression que vous ne vous interdisez aucun dessin, que vous relevez un certain nombre de défis. Il y a des scènes de foule, il y a une veillée dans une salle de ferme avec une lumière dans un coin de la pièce, avec un certain nombre de personnes présentes, des cours d'école où le monde est là, les perspectives, on le voit monter des escaliers, rien que ça, ça n'a rien de forcément de simple. Comment abordez-vous cette mise en image? Vous vous sentez vraiment libre de pouvoir tout dessiner et ça vous aide pour le choix de l'image?
Alors, je ne m'interdis rien de dessiner. Après, c'est pas pour autant que j'en baffe pas. Hein. C'est deux choses différentes. Mais non, j'essaie justement de ne rien m'interdire. Il y a des choses qui sont évidemment beaucoup plus compliqué que d'autres à dessiner, notamment la perspective. J'ai un apprentissage un peu empirique de technique de dessin. J'ai pas fait d'école de dessin, donc c'est quelque chose que j'apprends aussi en faisant. Donc ça prend du temps, mais en tout cas, encore une fois, tout est bon pour arriver à ce que je souhaite raconter, en tout cas. Et j'essaye, en tout cas, de rien m'interdire, surtout pas, justement, de montrer des scènes qui peuvent être assez complexes à réaliser ou autres. C'est ce qui me fascine aussi avec ce petit théâtre de papier qui est la bande dessinée, finalement. C'est-à-dire qu'avec très peu de moyens, on peut raconter des choses énormes. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas limité en termes de... Si on fait une analogie avec, je sais pas, le cinéma ou le théâtre, là, on peut avoir tous les milliers de figurants qu'on veut en bande dessinée. On peut restituer des décors qui n'existent plus depuis des années vraiment, on est limité que finalement par son imagination et encore une fois par le temps qu'on y passe. Donc tout ça m'excitait beaucoup aussi. Il y avait aussi la volonté, ouais, de restituer un peu cette époque qui me plaît beaucoup, ce 19e siècle, pour tout un tas de raisons, là encore, mais pour des raisons effectivement architecturales, picturales.
Damien Cuvillier, la mise en scène, vous, là aussi, on a des doubles pages où c'est limpide, le récit est toujours très fluide et les informations conséquentes. Donc, vous travaillez beaucoup cet aspect de l'unité de récit qu'est la double page dans vos bandes dessinées.
L'écueil que j'évite absolument, c'est de tomber dans l'illustration, dans le beau dessin gratuit, j'ai envie de dire. Les doubles pages, pour moi, elles ont pour volonté première de donner à voir, par exemple, la magnificence d'un lieu ou le fait que voilà, c'est quelque chose qui... en cassant ce rythme de lecture qui est souvent j'utilise généralement par page, il y a trois ou quatre bandes de strips les uns derrière les autres, et d'un seul coup, en tournant la page et en cassant ce mode de narration là, je donne à voir quelque chose d'autre dans le récit, qui est d'un seul coup une ouverture sur l'immensité d'un lieu ou d'un événement. Et oui, du coup, ça c'est quelque chose qui se travaille effectivement au moment du brouillon, du storyboard. Et je dissocie vraiment ces deux moments, en tout cas de travail, c'est-à-dire que le moment où je suis par exemple en train de travailler sur le storyboard, je ne me pose que des questions de narration et de dialogue. Et c'est un moment que j'aime vraiment beaucoup, parce que là, c'est vraiment là où je fais de la bande dessinée. Dans la mesure où je travaille généralement les séquences par double page, et j'essaye aussi, même dans le rythme du travail, d'aller assez vite vide quelque part dans la mesure où la bande dessinée se lie à un certain rythme. Alors après, le rythme que j'ai moi de lecture n'est pas celui des autres lecteurs, mais en tout cas d'essayer de garder le fil de la narration. Et encore une fois, ce qui prime, c'est le récit. Et je dissocie vraiment ce travail-là du travail de réalisation des pages définitives, dans la mesure où là, je vais être beaucoup plus concentré sur des questions techniques, de perspective, d'anatomie, de lumière, ce genre de choses. Mais c'est vraiment, pour moi, deux choses finalement assez différentes.
Une dernière question, Damien Cuvillier, l'aquarelle. Là, il y a aussi, on sent votre bonheur à mettre en couleur vos pages, à donner de la lumière, à cerner les visages, à être au plus près d'eux. C'est un plaisir manifeste.
Ah oui, l'aquarelle, c'est un médium que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant, même si j'essaye de tâtonner avec d'autres techniques comme la gouache par exemple. Mais l'aquarelle, oui, c'est vraiment la récréation. Autant le dessin peut parfois avoir un côté un peu laborieux, sachant que là aussi, pour cet album-là, j'ai tenté d'aborder un dessin un peu plus académique, dirons-nous, ou dans la veine d'un dessin un peu, on dit réaliste, même si j'aime pas ce terme, mais qui s'apparente à une certaine réalité. Mais je dirais plutôt académique. Mais du coup, ce qui fait que c'est quelque chose sur lequel je suis, la phase du dessin, où je suis beaucoup plus concentré et à l'affût du moindre détail, est-ce que ça soit le plus juste en termes de perspective ou d'anatomie. Alors que la mise en couleur, là, c'est vraiment la récréation, quoi. Et dans cette petite chimie qui se crée avec l'aquarelle, là, il y a un plaisir parfois même de spectateur, c'est-à-dire qu'en mélangeant des couleurs, de les voir se créer des variations, des formes qu'on n'avait pas prévues, même si on peut parfois donner une indication ou une volonté de teinte ou autre, et il se crée quelque chose qu'on ne contrôle pas totalement, et ça me plaît beaucoup. Et c'est un grand, grand plaisir, un grand régal, la mise en couleur.
Merci beaucoup, Damien Cuvillier. Je rappelle donc les caractéristiques de votre livre, « Voleur de feu, une vie d'Arthur Rimbaud ». C'est le livre 1, publié par les éditions Futuropolis. Les 104 pages de votre livre sont au prix de 20 €. Et le livre a été imprimé en Belgique. Très bonne continuation à vous pour ces 4 volumes à venir.
Merci. Au revoir. Beaucoup. Au revoir.
Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, nigga, better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you lie.
Blame it on my juice.
just don't even gotta try.
Now you know
I like shouting nigga better over time.
Now you know
heard you say I'm not the baddest bitch you lie.
Pour terminer cette émission, je voudrais le faire avec une adaptation littéraire, celle de Sylvain Bordesoul qui s'est approprié l'été des charognes de Simon Johannin. Alors, quelques mots, ceux de l'auteur, c'est son premier livre et il va parler du choix du texte de Simon Johannin. J'ai choisi de travailler sur ce texte car j'y ai reconnu le terreau commun à mon enfance. Une histoire sur un milieu que je connais, dans un langage qui enfin me parlait. Il dit quelque chose sur ce que c'est de grandir dans ce silence au cœur lourd. Simon Johannin a toujours, dans sa manière d'écrire, une poésie et une beauté qui vous attendent tapis dans l'ombre. Il s'est évoqué les petits moments de grâce, la timidité, la maladresse, l'intelligence, l'amour caché sous le masque d'un quotidien trop gris. Le texte peut paraître brutal, les gens bestiaux, mais c'est aussi leur vérité, une réalité. Il n'y a pas de jugement à porter. Je pense qu'il n'existe pas de gens qui n'ont rien à dire, de voix sans histoire, de personnes sans humanité. Mais il y a des violences qu'un enfant ne peut ni ne doit pardonner, et je veux que cette brutalité-là soit expressive. Si dure que l'enfance du héros puisse sembler, il ne faut pourtant pas lui enlever les moments où lui y trouve de la douceur. Dans toute chose, il y a une part pour les anges. Les enfants heureux pourront ne pas aimer cette histoire, les brisés s'y retrouveront peut-être et d'autres y trouveront, j'espère, un certain réconfort. C'est avec ce projet narratif que Sylvain Bordesoul va mettre en image le récit de Simon Johannin. Alors, comme dans le livre, le héros n'est pas nommé, c'est lui le narrateur, et nous regardons son monde à travers ses yeux. Et tout comme dans le livre, la bande dessinée nous immerge dans la violence d'une vie rurale, d'une campagne reculée. Ce que notre mémoire a idéalisé est ici un théâtre. La mort est omniprésente. Celle du chien qu'on caillasse, celle des brebis terrorisées par d'autres chiens dégénérés, des mouches qui vrombissent en vain sur les bandes collantes, celle de Didi, une grand-mère pleine de compréhension et de compassion. La violence du père, la violence sociale dont il faut s'extraire. L'adaptation est fidèle aux ambiances du livre et rythmée par quelques récitatifs, mais usée vraiment avec discrétion. Il y a aussi des ambiances. Et Sylvain Bordesoul, je le cite une nouvelle fois, dans l'enfance du personnage, il y a de la misogynie, du racisme, de l'homophobie, de la tendresse aussi, parfois dans des petites choses. Bien sûr, il faut du recul et prendre de l'âge pour voir cette lumière éclairer le passé. Dans sa mise en image, Sylvain Bordesoul a choisi de tenir le réalisme à distance. Il utilise la couleur directe avec ses teintes très délavées, assez claires, où les superpositions se font très facilement. Et il y a une façon très jetée de réaliser sa mise en image qui fait que nous sommes beaucoup plus dans des sensations, dans des expressions. Tous les regards de gros plans sont faits avec précision, mais il y a toujours cette exécution, ce lâcher, qui fait que le réalisme n'impose pas son diktat, ne nous laisse nous empêcherait d'être dans l'intimité des différents personnages. C'est une mise en image inhabituelle parce que on n'est pas dans cette précision comme on a pu, j'ai pu l'évoquer avec Indiana ou avec Damien Cuvillier, mais il y a aussi une réalité qui apparaît à travers cette façon de mettre en image. Ce qui va être essentiel, c'est que dans ce livre d'ampleur, il y a une façon de vouloir être au plus près du livre de Damien, du livre de Simon Johannin, et donc il va déployer son livre sur un très grand nombre de pages. Nous sommes à 280 pages, et Sylvain Bordesoul va donner de l'espace à chacune de ces images, et c'est important. Nous sommes dans non seulement un paysage un peu inhabituel, une campagne comme on n'a pas l'habitude de la vivre, mais nous sommes aussi dans une vie qui n'est pas forcément la nôtre, dans sa dureté, dans sa violence, et c'est l'expression de cette réalité-là que Simon Johannin traite avec des mots puissants et avec cette image de la mort un peu permanente. Eh bien, Sylvain Bordesoul fait sien aussi ce projet et va donner aussi cette présence, mais sans l'appuyer à la mort et à la violence. Il y a aussi, et je recite encore une fois Sylvain Bordesoul, de par la qualité de son projet, il dit « De l'enfance à l'adolescence, il faut apprendre à voir son cœur se briser plusieurs fois, digérer les douleurs, comprendre les autres, se trouver soi, déterminer la place que l'on s'accorde, oublier celle qu'on nous a donnée. » C'est une très grande réussite, cette adaptation littéraire, L'été des charognes, parce que, comme pour Indiana ou pour le projet de Damien Cuvillier, c'est une nouvelle œuvre qui se crée. Ce n'est pas simplement une adaptation littéraire. L'image va apporter sa lecture, et ainsi c'est un autre rapport à l'œuvre qui est ainsi créé et qui fait œuvre lui-même. Beaucoup d'écrivains comme Sœur Chalandon ou certains autres sont convaincus de cela, et à chaque fois que des adaptations sont faites de leurs œuvres, ils laissent cette place à l'écriture narrative de l'image pour qu'une nouvelle œuvre puisse advenir. C'est un premier livre époustouflant, surprenant, qui en tout cas présage d'une très grande œuvre. Sylvain Bordesoul est diplômé d'une école d'art et a surtout démarré sa carrière avec le storyboard, et L'été des charognes est son premier roman graphique. L'été des charognes de Sylvain Bordesoul, donc d'après le récit, le roman de Simon Johannin, est publié par les éditions Gallimard, bande dessinée, et les 280 pages sont au prix de 29 €. Et si vous voulez lire le livre de Simon Johannin, qui est aussi une belle lecture, donc L'été des charognes a été publié par les éditions Alia, et les 140 pages de ce récit sont au prix de 10 €. La semaine prochaine, nous serons avec Dominique Maric, qui est membre des studios RG, à l'occasion d'une édition des Bijoux de la Castafiore avec la version du journal Tintin. Et ça sera une immersion dans l'œuvre d'Hergé. Merci Fabien pour cette technique. Bonne semaine à tous, et je vous laisse sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.